Europe 1.
Europe 1,
14h, 15h.
On de la traconte.
Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui est très touchante. C'est l'histoire d'une petite fille qui se trouve être l'un des 56 enfants de Bokassa Ier, éphémère empereur de Centrafrique. Et c'est votre histoire, Marie-France Bokassa. Bonjour.
Bonjour.
Vous la racontez dans un livre qui paraît chez Flammarion, Le Château de l'Ogre. Vous avez en grande partie vécu avec votre père, Jean Bedel Bokassa, de votre naissance jusqu'à environ vos 14 ans, notamment en France, au château d'Ardricourt. Vous racontez le père qu'il a été, et en filigrane, évidemment, on voit l'homme, on voit le chef d'État, de sa gloire jusqu'à sa déchéance. C'est une histoire absolument passionnante que j'ai écrite avec Christophe Dumazer, la réalisation est de Céline Lebras.
14h, 15h,
on de la traconte sur Europe 1.
Je m'appelle Marie-France Bokassa. J'étais une princesse. Je vivais dans un château. Mon enfance, vue de loin, tenait du conte de fées. Mais je n'ai pas été heureuse, car il y avait un ogre dans mon conte de fées. Mon père, Bokassa Ier, empereur de Centrafrique, un ogre. Voici mon histoire. Marie-France naît à Bangui, en Centrafrique, en 1974. À cette époque, son père, Jean Bedel Bokassa, est président de la République de Centrafrique depuis 8 ans. Sa mère n'est pas une Africaine, c'est une Taïwanaise, toute jeune. Mais on ne peut pas dire que c'est la femme du président. En Centrafrique, la tradition permet à l'homme de prendre 4 femmes. Mais Jean Bedel est président, il fait ce qu'il veut. Il en aura 17. Une Roumaine, une Vietnamienne, une Ivoirienne, une Camerounaise, une Libanaise, une Française. Et donc une Taïwanaise, la mère de Marie-France. Il lui a fait 2 enfants. Mais au total, avec ses 17 femmes, Bokassa aurait eu 56 enfants. Marie-France est donc une parmi 56. Évidemment, elle ne se souvient pas grand-chose de sa petite enfance. D'autant que, longtemps, elle n'a eu qu'une photo d'elle, bébé, dans une jolie robe blanche, une en noir et blanc. Et aujourd'hui encore, elle ne sait pas si quand elle avait 6 mois, 1 an, on l'a bercée, on l'a nourrie, on l'a aimée, tout simplement. Elle n'en sait rien, ça la taraude évidemment, mais elle ne peut pas demander à sa mère et vous allez vite comprendre pourquoi. Elle espère bien qu'un jour, quelqu'un viendra lui raconter son enfance. Elle attend. Elle n'attend que ça. Ce qu'elle sait, c'est que petite, elle habite avec les autres enfants au palais présidentiel de Berengo, avec son père. Ils vivent tous dans une aile du palais, quadrillée par des militaires et des gardes du corps, avec des domestiques qui leur font à manger, qui les lavent, qui les habillent. Les mamans ne sont pas là. Leur président de mari leur a fait construire à chacune une petite maison blanche sur un terrain près de Bangui, donc loin du palais. Elles viennent voir leurs enfants tous les jours en principe, mais elles repartent le soir. En 1977, quand Marie-France a 3 ans, son père annonce qu'il devient empereur.
Sa Majesté, Bokassa Ier, empereur de Centrafrique.
Le sacre est une pantalonnade qu'il faudra que je vous raconte un jour. Et juste après, l'empereur décide d'envoyer tous ses enfants en Europe. Tous. Pour les mettre à l'abri, en sécurité. Il a peur d'un attentat. Et il prévient ses femmes au dernier moment en leur disant « Vous, bien entendu, vous restez avec moi !» « À ce moment-là, la mère de Marie-France est à Taïwan depuis un an. Elle ne la reverra jamais. Et donc un matin de 1977, les enfants de Sa Majesté Bokassa Ier prennent l'avion pour la Suisse. Le choc, le froid, tous ces blancs, pas de noir, une autre planète. Et les enfants se retrouvent dans un pensionnat catholique à Genève, car Bokassa est très croyant. Il veut leur inculquer les valeurs religieuses. Marie-France se souvient d'un bâtiment gris au milieu d'un parc boisé, à 10 par chambre, les religieuses qui leur lisent la Bible, et puis la piscine, la luge, la patinoire. Ce que Marie-France et ses frères ne savent pas, c'est qu'un jour, leur empereur de père se fait débarquer par des parachutistes français.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. L'Empire centrafricain a vécu, l'empereur Bokassa Ier ne règne plus. Cette nuit, l'ancien président de la République, renversé en 1965 par celui qui était à l'époque le capitaine Bokassa, a repris le pouvoir. À la demande de monsieur David Dacko, des troupes françaises ont été envoyées à Bangui. Elles sont déjà sur le terrain.
Ils l'apprennent à l'été 1979, quand ils voient débarquer au pensionnat, en Suisse, des amis de leur père. Votre père, Sa Majesté Bokassa, a quitté le pays. Il est dans un autre pays. Vous allez le rejoindre. Et ce pays, c'est la Côte d'Ivoire. Et Marie-France et toute sa fratrie se retrouvent donc à Abidjan. Son père vient l'embrasser. Ah, tu ressembles de plus en plus à ta mère. Je vais m'occuper de toi, puisqu'elle n'est plus là. Et ils s'installent tous ensemble dans l'une des nombreuses villas du président ivoirien Houphouët-Boigny. Ils y restent 4 ans. Et ils vont à l'école à côté, avec les autres, avec les pauvres. Et puis un jour de 1983, leur père leur annonce qu'ils partent vivre en France.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de l'une des 56 enfants de Bokassa Ier, président puis empereur de Centrafrique. Une histoire que Marie-France Bokassa raconte dans un livre qui paraît chez Flammarion, au château de l'Ogre. Elle sera là tout à l'heure. Marie-France naît en 1974 quand son père est président de la République. Elle est la fille de l'une de ses 17 femmes. Quand son père se fait couronner empereur en 1979, il décide d'envoyer tous ses enfants dans un pensionnat catholique en Suisse. Déchu de son trône 3 ans plus tard, il les fait venir en Côte d'Ivoire où il est réfugié. Ils y restent 4 ans avant d'embarquer pour la France. Leur père leur a demandé de prendre le minimum de bagages. Et Marie-France, la mort dans l'âme, a dû abandonner en Côte d'Ivoire la poupée géante d'au moins 1 mètre qu'elle avait eue pour Noël. C'était sa confidente. Elle lui disait tout. Et donc un jour de 1983, elle a 9 ans et elle débarque avec une dizaine de ses frères et sœurs, son père et sa secrétaire Philomène, qui est aussi sa maîtresse, à Roissy-Charles de Gaulle. Direction le château d'Ardricourt dans les Yvelines. Quand ils arrivent, il vient de neiger. Le château est magnifique. Et dès le lendemain, Marie-France se retrouve à l'école du village. Noire, au milieu des blancs. Une bête de foire. Les gamins la regardent, elle et ses frères et sœurs, comme des animaux de zoo. C'est ce qu'elle ressent. Dans la classe, ça va. Mais dans la cour... La mangeuse d'hommes. Et vilaine sale. Mangeuse d'hommes. Elle ne comprend pas. Elle ne sait pas qu'on accuse son père de cannibalisme. Il y a autre chose. Son père a commencé à faire installer des grilles aux fenêtres du château. Et maintenant, il y a des gardes partout dans le parc. interdiction de sortir après l'école. Elle dit à son père « Pourquoi on est ici, papa ? Les gens veulent pas de nous ? On est enfermés ? Pourquoi on est ici ?» Il la regarde, figé, muet. Il enlève ses lunettes. Une larme coule sur son nez. Elle voit un être malheureux et impuissant. En attendant, interdit aussi de jouer dans le jardin. Il y a des journalistes partout en planque autour du château. Et des photographes. Je ne veux pas que vous soyez pris en photo. Après, ils vont faire des photomontages et ils vont prendre votre photo pour dire que je mange des enfants. N'empêche que le soir, Marie-France a peur dans son lit. Elle a peur que son père vienne la dévorer. Il dit que ça n'est pas vrai qu'il est cannibale. Mais elle a vu à la télé. Elle ne le croit pas. Finalement, à l'école, ça s'est arrangé pour tous les frères et sœurs. Et Marie-France s'est fait des amis. Elle le dit à son père. « Papa, ça y est, maintenant tout le monde nous aime au village. Ils vous aiment ? Ah ! Ils vous fréquentent pour obtenir des renseignements sur moi, oui. Pour les vendre aux journalistes, c'est tout. Mais non, ils sont vraiment gentils. En tout cas, il n'est pas question qu'ils viennent ici. » Ils ne viendront pas. Mais Marie-France et ses frères et sœurs se mettent à faire le mur pour rejoindre leurs copains. Et un jour, ils se font prendre. « Vous êtes des espions de la France ! Vous êtes des comploteurs ! Des bâtards ! » Parano. Bokassa est devenu parano. Et tyrannique. Un jour, par exemple, il rentre dans la cuisine. « Je suis affamé !» Et il propose un concours à ses enfants. Celui qui fera le meilleur riz aura 500 francs. Une heure après, il est de retour. Il commence par le plat de riz de Marie-France.
« Bien ! C'est réussi !»
Et il passe à Marie-Angélique.
« Mouais, pas mal. »
Il arrive devant Marie-Alice, 12 ans.
« Nul ! Tu n'es bon à rien, comme ta mère. Tu es une empoisonneuse. Tu vas manger ton riz jusqu'au dernier grain. »
Et comme elle n'y est pas arrivée, il l'a tout simplement chassée du château. Il l'a obligée à vivre dans le parc, à dormir à la Belle Étoile. C'est la sanction la plus courante, avec la privation de repas. Enfin, de repas. Il n'y a jamais d'entrée et pas de dessert, juste un plat de viande et de riz avec de la sauce. À table, il faut aussi remplir son verre de vin rouge. Malheur à celui qui oublie. Une fois Marie-Alice, encore elle, oublie, il fait mettre tous ses vêtements dans le jardin et il craque une allumette et il y met le feu.
La prochaine fois, tu n'oublieras pas de remplir mon verre.
Comme il n'y a pas grand-chose à manger, Marie-France fait régulièrement les poches de son père pour lui voler des pièces. Et ils vont compléter ensemble, les frères et sœurs, leur repas au supermarché. Un jour, une des filles vole une boîte de sardines. Elle se fait prendre. La sécurité appelle les gendarmes, qui font venir Bokassa. Sa punition est terrible.
« Vous êtes des bandits ! Vous me faites honte ! Vous êtes indigne de porter mon nom ! »
Et il leur annonce qu'il va les placer à la DAS. Tous, sauf Marie-France. Et il le fait, figurez-vous. Il en envoie 4 dans un foyer. Il s'en débarrasse et il garde juste les 6 autres. Après leur départ, la vie de château devient morose. Et les 6 qui restent se retrouvent prisonniers, enfermés. Mais Marie-France a trouvé une parade. Elle passe par une salle de bain du 2e étage. Elle fait une corde avec ses draps et elle s'enfuit dans le parc. Et dire que dans le village, les gens les envient. Ils n'imaginent pas les privations et les punitions.
Europe 1, on de la traconte. Thank you.
Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de l'une des 56 enfants de Bokassa Ier, président puis empereur de Centrafrique. Une histoire que Marie-France Bokassa raconte dans un livre qui paraît chez Flammarion, Au château de l'ogre. Elle sera là dans un instant. Marie-France naît en 1974 quand son père est président de la République. Elle est la fille de l'une de ses 17 femmes. Déchue de son trône en 79, les Bokassa passent un temps par la Côte d'Ivoire. Et en 1983, ils échouent en France, au château d'Ardricourt, dans les Yvelines, où l'ancien dictateur devenu paranoïaque se mue en tyran domestique. En France, Bokassa a un petit empire immobilier. Il a 7 châteaux au total et une chasse en Sologne, où il va régulièrement chasser la biche, le faisan ou le sanglier. Et où il emmène ses enfants, enfin ceux qui restent, ceux qu'il n'a pas mis à la dasse. Et le soir, il leur montre ses prises. Il leur apprend à plumer un faisan, à brûler les poils d'un sanglier, à détacher la peau d'une bête, à la vider. Et après, il rapporte la viande au château pour remplir le congélateur. C'est que le gouvernement français ne me donne plus d'argent. Marie-France a tout de même quelques bons souvenirs de son enfance avec son père. Par exemple, le soir, il leur racontait des histoires. Son enfance, ses guerres, ses 17 femmes, son couronnement, sa chute aussi. Il dit qu'il a été trahi par un chef d'État européen. Et on pense tout de suite à Giscard d'Estaing.
Oh, c'est simple. Il avait une relation avec une de mes femmes. Je lui ai ordonné d'arrêter et de tout révéler à la presse et de parler des diamants que je lui avais donnés. Il s'est vengé. Il s'est vengé en organisant ma chute. Voilà la vérité.
Et après, il demande à ses enfants de le porter pour le ramener jusqu'à son lit. Et ils lui prennent les bras, les jambes, le dos, ils râlent un peu en chemin, ils le déposent sur son matelas, ils le déshabillent, et lui continue de leur raconter ses histoires. Il dit par exemple qu'il n'a jamais été cannibale.
« Je descends des pygmées. Et les pygmées, c'est connu, manger leurs ennemis. Mais moi, je n'ai jamais fait ça, jamais. »
Au total, il est assez fier de son bilan. Il dit que la Centrafrique vivait mieux sous son règne. Un jour, Marie-France a 12-13 ans, elle va avec deux de ses grands frères au supermarché. L'un des deux envoie l'autre faire des courses. Et ils restent seuls tous les deux dans la voiture. Le frère va garer la voiture à l'écart.
« Donne-moi un bisou !»
Une autre fois, elle est dans la cuisine, et le même vient se frotter contre ses fesses et poser ses mains sur ses seins. Elle veut hurler, mais rien ne sort. Une autre fois, il l'emmène à Paris, dans un hôtel. Il la fait attendre dans un petit salon, et il revient avec 4 messieurs âgés, des gens des Émirats. Il veut leur vendre sa petite sœur, mais elle refuse.
« Tu as tort! Avec l'argent, on pourrait s'acheter plein de choses !»
Et il finit par lui payer une glace pour qu'elle ne le répète pas à son père. Et pourtant, elle le lui répète. Et le père va voir son fils avec un pistolet à la main. Et il le lui place sur la tempe.
« Salopard! Si tu touches à l'un de mes enfants, je te tue! Tu n'es pas mon fils! Tu es un bâtard !»
Ça n'empêchera pas le grand frère de vouloir recoucher avec elle quelque temps plus tard. Il l'a fait entrer dans sa chambre, il est tout nu sur son lit.
« Viens, viens t'asseoir près de moi. »
Et d'un coup, il se lève et il ferme la porte à clé. Il va dans la salle de bain, il enfile un peignoir et il revient avec une mallette. Il l'ouvre, des liasses de billets. Il lui propose 10 000 francs pour coucher. Et elle saute du lit.
« Tu me laisses partir tout de suite !»
Il n'insiste pas. Il la laisse partir. Et puis un jour de 1986, Bokassa annonce à ses enfants qu'il va rentrer au pays.
Je ne supporte plus qu'on m'accuse de crimes contre l'humanité. Qu'on m'accuse de pillage dans mon propre pays. Je veux donner ma propre version des événements. J'accepte d'être jugé par les miens.
Et avant de partir,
mes petits princes et princesses, pendant mon absence, je compte sur vous pour travailler à l'école. Et n'écoutez pas ce qu'on va dire de moi. J'ai servi la France et la Centrafrique avec beaucoup de dévouement. Veillez les uns sur les autres. Et veillez sur les valeurs morales, c'est essentiel.
Un testament, en quelque sorte. Et ensuite, il prépare son départ. Il doit quitter discrètement la France. Il veut d'abord aller en Belgique, en voiture. De là, aller en Suisse, puis en Italie. Et prendre un avion pour Bangui. Et finalement, il emmène ses enfants avec lui. Mais arrivé à Bangui, il descend seul de l'avion. Il les embrasse un par un. Et il le voit partir par le hublot, cerné de militaires. Pour Marie-France, c'est une déchirure. Elle qui n'a plus de mère. Son père était son seul refuge. Elle l'aime, finalement. Mais leur chemin se sépare. Et les enfants reviennent en France, au château d'Ardricourt, où règne désormais en maîtresse Philomène, l'ancienne secrétaire devenue la 17e femme. Sauf que Bokassa est parti sans laisser un radis. Du coup, au petit déjeuner, c'est un tiers de lait pour deux tiers d'eau. Et le soir, assiette de riz en sauce avec maigre portion de viande. Et prière de laver le linge à la main pour économiser l'électricité. Le personnel est congédié, les enfants font le ménage et ils vont faire les courses au supermarché avec une brouette. Pour faire la toilette, l'eau est rationnée. 2 litres d'eau par jour et par personne, pas plus. Et la toilette, dans le froid, pour économiser le chauffage. Et les draps, ils n'ont droit de les laver qu'une ou deux fois par an, à la main. Et le pire, c'est qu'un jour, Marie-France fouille le sac de Philomène et elle en sort une liasse de billets de 500. Elle leur ment, elle leur impose des restrictions, mais elle a de l'argent.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de l'une des 56 enfants de Bokassa Ier, président puis empereur de Centrafrique. Une histoire que Marie-France Bokassa raconte dans un livre qui paraît chez Flammarion, Au château de l'ogre. Elle sera là avec moi dans un instant. Marie-France est la fille de l'une des 17 femmes de Bokassa. Quand il est renversé, avec une partie des autres enfants, elle le suit en exil en Côte d'Ivoire, puis en France, au château d'Ardricourt dans les Yvelines, où l'empereur déchu devient un tyran domestique. En 1987, Bokassa décide de rentrer au pays où il est arrêté. Ses enfants restent en France sous l'autorité de sa 17e femme. Et c'est par la télé qu'ils apprennent que leur père a été jugé en Centrafrique et condamné à mort. Et un peu plus tard que sa peine a été commuée en prison à vie. Ils le voient à la télé, hirsute, avec une barbe de plusieurs jours, chancelant, affaibli. Marie-France est triste. Elle ne le reverra plus. En attendant, un jour Philomène explique les conséquences de tout ça. Sans aucune délicatesse, aucune tendresse.
Il ne m'a pas laissé d'argent. Il ne m'envoie plus d'argent. Moi, je ne sais pas quoi faire. Je voudrais aller le retrouver.
Elle veut partir. Qu'elle s'en aille. Sauf qu'elle ne part pas. Mais Bokassa leur écrit de temps en temps. Il parle d'un acharnement médiatique international, d'un complot du gouvernement français. Il décrit aussi ses conditions de détention, sa cellule sombre et insalubre, la cuvette qui fait office de toilette. Il ne prend plus qu'un seul repas par jour, et la lecture est son seul espace de liberté. Il ne lit plus que la Bible. Et d'ailleurs, il signe ses lettres par cette étrange signature, Jean-Bedel Bokassa, 6e apôtre du Christ. Pour aider Philomène, il annonce qu'il envoie sa sœur, Jacqueline. Les enfants ne la connaissent pas.
Ils espèrent qu'avec elle, la situation va s'améliorer. Tu parles ? Ils voient débarquer une grosse femme, les cheveux hérissés comme un râteau. C'est la première fois qu'elle vient en France et elle parle très mal français. Elle débarque avec des feuilles de manioc, du poisson séché et des chenilles. Et le lendemain, elle réveille tout le monde à 5 heures du matin. Elle a aussi supprimé les couteaux et les fourchettes. Vous allez manger comme chez nous ? Avec les mains ? Manger ? Sa spécialité est de faire cuire une tête de bœuf entière au courbouillon et de la servir avec du riz. Le tout dans un plat par terre. Marie-France n'a plus qu'une idée. Partir. Fuir. Fin juin, elle a 14 ans. Elle prépare 2 sacs. Elle y glisse ses affaires. Et elle s'enfuit. Direction Melan-Paradis, une cité voisine où elle a des amis. Au début, elle dort dans un hall d'immeuble. Et dans la journée, elle va se doucher chez un ami. Et puis un jour, elle est dans un parc, sur un banc. Et elle rencontre une gentille dame, Monique. Elle lui raconte tout. C'est incroyable ton histoire. Écoute, ce soir, t'as qu'à venir dormir à la maison. Tu resteras tout le temps qu'on trouve une solution. Marie-France a eu une petite appréhension quand elle lui a dit son nom. Je m'appelle Bokassa. Marie-France Bokassa. Mais Monique, ça n'a pas l'air de l'impressionner. Et donc Marie-France se retrouve chez Monique. À un moment, Philomène essaye de la récupérer pour les allocs, mais le juge décide de la laisser à Monique. Marie-France a enfin trouvé une famille.